Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Eh oui, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu parle au travers de sa parole, Dieu parle au travers de son esprit, Dieu parle au travers de la création. Dieu parle au travers de nos souffrances, Dieu parle au travers de nos difficultés, Dieu parle quand nous sommes peut-être quelquefois dans le deuil. Dieu parle quand nous sommes dans un événement heureux comme la naissance d'un enfant. Dieu parle, et l'homme n'y prend point garde. C'est ce que j'étais auparavant. Donc, un homme que Dieu essayait d'interpeller. Et comme il est cité dans ce verset, « Je n'y ai pris point garde ». Alors si seulement je pouvais compter combien de fois Dieu m'a parlé, et je peux le dire aujourd'hui avec du recul, « Ô Seigneur, combien de fois m'as-tu parlé ?» Par les circonstances de ma vie. Comme je disais avant, par la joie d'avoir, par la naissance d'un fils, Dieu m'a gardé des accidents. Dieu m'a gardé et encore aussi du danger de mon travail. Combien de fois j'aurais pu y laisser ma vie, combien de fois sur la route, ce n'est souvent pas moi qui conduisais, mais combien de fois on est sorti de la route, en voiture, tombé à moto, combien de fois Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé au travers d'un oncle qui était converti. Quand il venait nous rendre visite, on fuyait, et pourtant, il nous témoignait de la grâce de Dieu. Ma mère également, qui s'est convertie à un moment donné, me parlait de la grâce de Dieu. Dieu parle encore. Dieu m'a parlé également au travers de ma petite sœur Stéphanie, qui s'est convertie également. Dieu m'a parlé, et je restais là, insensible. Je n'y prêtais aucune attention. Et Dieu use de patience pour sauver un plus grand nombre. Et Dieu est patient, et Dieu était patient avec moi. J'avais une vie de famille tout à fait normale. Donc un travail, une santé physique qui me permettait d'accomplir diverses activités et loisirs. Pourquoi donc me questionner, me soucier sur l'existence de la vie, de la mort, sur l'existence de Dieu? Puis, jusqu'à un jour de novembre 89, une lettre arriva chez nous. C'était le courrier d'un astrologue qui me promettait une vague de chance, une vague d'or sur une période de 4 mois. Tiens donc, moi qui avais une ouverture d'esprit, oui, quand tout va bien. Parce qu'on dit souvent, être chrétien, c'est être boiteux, c'est être malade. Non, j'avais 28 ans quand je me suis converti, en pleine forme. Et Dieu m'a touché. Et j'étais ouvert à beaucoup de choses, sans trop toucher. Je n'ai jamais touché à l'occultisme. L'horoscope ne m'intéressait pas. J'étais plus dans les choses palpables, concrètes, rationnelles, physiques. Et on a reçu ce courrier, et cet homme disait au travers de cette lettre comme quoi, voilà, le mois de décembre 89, à la nouvelle lune, si vous acceptez justement de retourner le coupon réponse, il y aura une vague d'or et de chance qui va démarrer pour vous à partir de cette nouvelle lune du 13 décembre 89. Et alors j'étais là avec ce courrier, je l'ai lu, et je me suis dit, tiens, pourquoi donc ne pas essayer? C'est attirant, c'est alléchant. Et en plus, il me proposait 6 numéros de chance. Ouais, je voyais déjà également le loto. Tiens donc. Et ma femme me disait, mais doucement, tu ne vas quand même pas répondre à ce coupon, parce qu'en plus, il fallait rajouter une somme de 150 francs, je crois que c'était à l'époque. Elle m'a dit, tu ferais mieux de donner cette somme à une bonne œuvre. Ah, je lui dis, oui, tu as raison, mais quand même, au fond de moi, il y a quelque chose qui m'attirait. J'ai dit, je voudrais juste savoir ce que cette personne a à dire à mon sujet et pour voir effectivement si cette vague d'or arrive. Alors, j'ai répondu à ce courrier. Et quelques temps plus tard, j'ai reçu par la poste un petit fascicule de cet astrologue qui me promettait, donc à partir du 13 décembre, nouvelle lune en 89, donc une période de vague de chance qui allait commencer. Et dans l'attente de démarrer, donc d'arriver à cette nouvelle lune du 13 décembre, j'ai pris ce courrier et cette brochure et je l'ai posée sur le buffet de ma cuisine pour pouvoir justement démarrer. Entre-temps, l'invitation. Entre-temps, j'ai ma petite sœur Stéphanie, on a une douzaine d'années de différence, qui vient chez moi et me dit, Eric, j'aimerais t'inviter à mon baptême. Baptême ? Ah oui, mais baptême, oui. Je n'ai pas très bien compris le sens du baptême. Pourquoi se faire baptiser en tant que chrétienne catholique, elle l'était déjà à la naissance. Et encore plus, elle m'a dit ça quand j'étais avec des amis à table. Je dis, écoute, oui, Stéphanie, par du fait que tu es ma sœur et par politesse, j'y vais, je viens. Alors, mes amis qui étaient à table, enfin mon ami qui était à table, me dit, ah oui, baptême, oui. Je fais, écoute, chacun sa religion, hein, c'est ce que je me suis dit. Ben, chacun est libre d'accepter de faire ce qu'il veut. Et ok. Donc, j'étais invité à cet office de baptême, c'était à l'époque, en 1989, rue Népère, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et quand je suis arrivé dans ce lieu, il y avait la paix, la joie, ça chantait, il y avait de l'enthousiasme. J'ai vu des jeunes, des moins jeunes, qui étaient vêtus d'un vêtement blanc. J'ai entendu des témoignages, la délivrance de la drogue, délivrance de l'alcool. Et d'autres, comme ma petite sœur, en toute simplicité, elle a accepté Jésus. Elle n'avait rien de problématique en soi. Quelle grâce! Je me suis dit, mince Seigneur, et ils étaient au moins une vingtaine. Et j'ai vu ça, ils sont immergés, tac, tac. Et j'écoutais, j'étais attentif, je voulais savoir, déjà d'une part parce que ma sœur y était. Je me dis, est-ce que c'est une secte? Mon oncle, ma mère m'en parlaient un petit peu, mais c'était toujours très, très, très éloigné pour moi. Là, je suis en pleine cérémonie. J'entends ces chants de louange, j'entends ces chants d'adoration, j'entends la reconnaissance, ces témoignages. J'entends même le pasteur, c'était Gilbert Ringebach, à l'époque, qui disait, et c'est une phrase qui m'est restée, qui me disait, la religion, c'est comme un manteau qu'on met. Quand on l'enlève, que reste-t-il? Et c'est une phrase qui m'a interpellé. J'ai dit, oui, j'ai la religion catholique. Mais si j'enlève cette religiosité, qu'est-ce que j'ai accompli, moi, personnellement vis-à-vis de Dieu? Qu'est-ce que j'ai compris moi personnellement concernant Dieu? Et c'est une phrase qui trottait dans ma tête. Et il y a encore autre chose qui trottait dans ma tête. C'est ce fameux courrier, cette brochure qui était sur le buffet de ma cuisine. Tiens donc. Parce que il y avait une sorte de contradiction entre ce que j'entendais à ce moment-là et ce que j'avais sur le buffet de ma cuisine. Allez savoir pourquoi je ne savais pas à l'époque, aujourd'hui je sais. Mais en tout cas, il y avait une contradiction. Et je me sentais poussé et je me suis dit, en rentrant, la première chose que je vais faire, c'est déchirer ce courrier. Parce que je sens qu'il y avait cette opposition, cette contradiction. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Parce que je me suis également dit, Jésus, qui est Jésus? Ah oui, bon, j'en ai entendu parler dans ma jeunesse. J'ai fait ma petite communion, ma confession. Mais qui est-il vraiment? Et je me suis dit également, si je devais choisir un Dieu, ce serait bien lui. Parce que dans le nom de Jésus, il y a quelque chose de vrai qui émanait pour moi. Je sentais que c'était vrai. Je ne pouvais pas le définir, mais je sentais que c'était vrai. Et j'étais là, en train d'écouter, attentif, concentré, essayer de comprendre. Et j'ai ma femme qui était assise sur le rang derrière moi. Et puis, poum, poum, vas-y. Des coups dans le pied de la chaise pour me déconcentrer. Elle me voyait absorbé. Et je dis, arrête, j'essaye de comprendre. Et puis voilà. Mais arrête, elle me dit. Et puis, j'écoutais. À la fin de la cérémonie, j'ai mon père qui a assisté également. Alors Jessica nous parlait de son père. Et il me dit, écoute, qu'est-ce que t'en penses? J'ai fait, écoute, papa, ils sont dans la joie. Ces jeunes, ces moins jeunes, ils sont dans la paix. Il y a la délivrance. C'est des choses qui sont bonnes. Et il m'a dit, oui. Il a dit, je préfère aussi voir ces jeunes ici que de les voir ailleurs dans le monde, en train de se perdre, à consommer, à boire, à se droguer et autres. Il me dit, oui, on a partagé la même impression. Et il me dit comme ça, mais écoute, viens boire un verre chez nous pour justement continuer un petit peu cette fête, cet événement. Et je dis oui. Et comme on avait notre fils Grégory en garde chez la belle maman, donc on est allé le récupérer. Et dans la voiture, j'ai répété cette phrase à Fabienne, donc mon épouse. J'ai dit, écoute, t'as entendu ce qu'a dit le pasteur? La religion, c'est comme un manteau qu'on met, quand on l'enlève, il n'y a plus rien. Et je disais ça parce que ma belle-mère, elle enseignait le catéchisme, elle était catéchèse. Et dans la famille de mon épouse, ils étaient tous religieux. Eux, ils savaient. Ma femme connaissait mieux les textes bibliques que moi. Et je lui ai répété cette phrase, et puis là, oulalalalalala, qu'est-ce que j'ai pas dit? Tu vas arrêter. Tu vas quand même pas croire à ces balivernes. Ne te laisse pas embobiner par ces paroles, par ces phrases. Et tout de suite, j'ai compris qu'il fallait que je me taise. Je n'ai plus cherché à comprendre ou essayer à discuter. Et je regarde un peu mes notes parce que j'ai en même temps le PowerPoint un petit peu. Et en rentrant, donc on a récupéré notre fils Grégory. On est allé chez mon père qui habite juste quelques maisons plus loin, dans la même rue. Et ce qui était étonnant, c'est qu'on venait d'assister à un office de baptême, qu'on a entendu des témoignages, des chants, des louanges, de l'adoration. On a parlé de tout et de n'importe quoi, sauf de ce qu'on avait vu 2 heures avant. Impressionnant, incroyable. Pourtant, j'avais des questions en moi. À un moment donné, j'aurais peut-être bien voulu avoir une réponse sur certaines questions, sur la personne de Jésus éventuellement. Bien, on a discuté. Et puis, le fin d'après-midi étant venu, on est rentré à Judissa, tout simplement parce que on est rentré dans une situation tout à fait normale. Donc, le soir, on a pris le dîner ensemble, on a regardé la télévision ensemble, on a regardé un premier film, enfin du moins je dis ça parce que je regardais rarement un deuxième, mais bon, c'était ce soir-là, j'ai regardé un deuxième, je ne sais pas pourquoi. Et donc, c'est juste pour dire, je n'étais pas perturbé dans ma mémoire, je n'étais pas perturbé dans ma conscience sur ce qui venait, sur ce que j'ai vécu dans l'après-midi. Je n'ai pas pensé baptême, je n'ai pas pensé église, je n'ai pas pensé Dieu. J'ai regardé en toute simplicité ce film. Fabienne me dit, écoute, je vais me coucher avec le petit, ils sont allés se coucher, même déjà avant, à la fin du premier film, et je me dis, oh, je vais regarder le deuxième film. Je dis ça parce que je n'avais pas la notion de l'heure. Quand je suis allé me coucher, je ne savais pas quelle heure il était. Mais du fait que j'ai regardé un deuxième film, je pensais qu'il devait être à peu près vers minuit. Il y a minuit, je suis allé me coucher. Et je me suis endormi. Le sommeil. Et là, repris dans ma conscience par une voix qui me disait, qui me rappelait, et tu te souviens, quand tu disais que tu vas déchirer cette brochure, j'avais oublié, et cette voix me disait, va, descends et déchire cette brochure. Dans une tonalité relativement douce. Et une... Avant de continuer, je voudrais juste citer ce verset. Il parle, par des songes, des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, Dieu parle. J'en suis témoin. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Et je ne savais pas que cette voix, au travers de ma conscience, c'était celle de Dieu qui m'interpellait. Et qui me disait, va, descends et déchire ce que tu avais convenu de faire. Et notre chambre à coucher était à l'étage. Une voix similaire me disait, tu as le temps demain. Vous savez, quand vous êtes vraiment bien endormi et que vous avez une voix qui vous demande de vous lever, et d'aller déchirer cette brochure, c'est dur, hein? On a déjà du mal à se lever le matin pour aller bosser, quand le réveil sonne. Et là, en pleine nuit, en bon sommeil, bon, et une autre voix qui vous dit, bon, cool, t'as le temps demain. Oh, oui, oui, j'ai le temps demain. OK. Et ça devenait de plus en plus, alors là, la tonalité a commencé à changer. Le ton a commencé à changer parce que j'étais indécis. Et toujours encore dans mon sommeil, la voix me disait, va, descends, déchire cette lettre. Et l'autre voix me disait, non, reste là. Va, descends, déchire, non, reste là. Va, descends, déchire, non, reste là. Va, descends, déchire, non, reste là. Un tel point. Alors là, je suis sorti de mon sommeil, frères et sœurs, chers amis. Et je sais très bien encore ce que j'ai fait. Il y a 33 ans de cela. Je me suis levé, j'étais couché en chien de fusil. J'ai pris ma main droite, la tapé sur la cuisse et j'ai dit, maintenant, ça suffit. Maintenant, ça suffit. J'étais comme entre deux personnes qui me demandait de faire quelque chose. Une me demandait de rester là et l'autre me demandait d'aller faire ce que je devais faire. Je me suis levé de mon lit et comme je disais, notre chambre à coucher était à l'étage. Je suis descendu et là j'ai ressenti une résistance, une retenue. J'avais du mal à descendre les escaliers, pas à monter les escaliers. J'aurais pu comprendre, mais descendre. J'avais du mal, avec mon propre poids, à descendre une marche après l'autre, tellement il y avait une résistance, une opposition. Malgré cela, je suis arrivé, ces oppositions, à la hauteur du buffet de ma cuisine. Et là, j'ai pris cette brochure. Et au moment où je l'avais en main, j'ai ressenti que je faisais quelque chose, mais je ne savais pas quoi. J'ai pris cette brochure, j'ai commencé à la déchirer. Et au moment où je commence à déchirer, j'ai ressenti un soulagement. Et ce soulagement était tel que j'ai encore commencé à déchirer plus petit, que j'ai continué à déchirer plus petit, que j'ai fait des plus petits morceaux et encore des plus petits morceaux. Et un soulagement, une satisfaction. Et j'ai pris cette brochure, ce vœu que j'avais fait. J'ai pris et j'ai mis à la poubelle. Et je suis allé me recoucher, tranquille. Pourquoi tranquille? Parce que je n'avais plus cette lutte entre deux personnes qui me poussaient à aller et l'autre à rester. J'ai fait une démarche, j'ai fait, aujourd'hui je peux le dire, un acte de foi, mais au début je ne savais pas à qui j'avais affaire. Je voulais juste que les choses se terminent. J'ai exécuté quelque chose. Et je suis allé me coucher. Et je me suis tout simplement réendormi. Et je me suis rendormi tranquillement. Et là, il est dit dans Job chapitre 4, verset 13, « Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, il est dit... Quand Job parle, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi, et tous mes cheveux se hérissèrent. Là, j'étais couché dans mon lit. Mon épouse était à côté de moi. Alors donc, elle n'était pas réveillée du fait que je me suis levé, que j'étais en lutte. Elle dormait. Je me suis recouché, elle dormait toujours encore à côté de moi, sans bouger, sans broncher. Et là, comme il est dit, donc, à nouveau réendormi, il y a une lutte que je ne connaissais pas, des ténèbres que je ne connaissais pas, des choses qui m'étaient complètement inconnues. Alors, combien de temps se sont écoulés dans ce sommeil, je ne sais pas. Mais en tout cas, comme il dit dans Job, j'étais en proie à l'épouvante et à l'effroi. Alors, je disais avant, j'étais en pleine forme physique. J'étais courageux, téméraire. La mort, pour moi, ne voulait rien dire. Mon épouse, quand elle me disait, écoute, à moto, fais attention, roule doucement, je lui disais, écoute, si à 200 km/h je prends un mur, ça sera fini. Ignorant, orgueilleux, fier, ne sachant pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et là, cette nuit, saisi de frayeur et d'effroi, et je peux dire, comme les textes bibliques, que si on m'avait fracturé les os, ça aurait fait les mêmes effets. Mes genoux se sont entrechoqués. J'étais couché dans mon lit. Il y avait le vide à droite, et pas seulement le vide, frères et sœurs, chers amis, l'abîme. J'avais juste de quoi, mon corps était comme en suspension. Et là, j'étais comme attiré dans un gouffre. Vous savez, vous avez déjà rêvé que vous marchiez peut-être sur un bout de mur ou à côté d'un précipice. Et puis d'un coup, vous perdez l'équilibre. Et ça vous fait un drôle d'effet pendant que vous rêvez, n'est-ce pas? Ah ben moi, je suis rentré dans un cauchemar. C'est-à-dire le « c'était continuellement le continuel. Alors, étant mineur de fond, je sais ce que c'est l'obscurité. Enfin, j'étais mineur de fond. Je sais ce que c'est l'obscurité. À 1200 mètres sous terre, quand vous éteignez la lumière, il n'y a plus une once de lumière qui traverse, qui passe, c'est l'obscurité totale. C'est pas comme dans une maison quand vous fermez les volets. Vous avez toujours encore peut-être un petit filtre de quelque chose qui traverse, mais là, au fond d'une mine, c'est le noir total, complet. Si vous n'avez pas l'électricité, si vous n'avez pas une lampe d'appoint, si vous n'avez pas une lumière superficielle, vous ne voyez rien. Et on s'est souvent amusé à éteindre les lampes frontales qu'on avait quand on était dans une fonte galerie où il n'y avait pas l'éclairage par les néons, où il n'y avait pas l'éclairage électrique. On s'amusait quelquefois à éteindre notre lampe frontale pour voir, et pourtant, on était quelquefois à deux, ou voire à trois. On ne se voyait plus. À 20 cm l'un de l'autre, on ne se voyait plus. On avait beau faire 5 ou 6 pas, on commençait à taper sur le parement de droite, sur le parement de gauche. On était désorienté au bout du deuxième, voire du troisième pas. Je sais ce que c'est être dans le noir. Et je sais ce que c'est, le noir. Mais alors là, frères et sœurs, les ténèbres dans lesquelles j'étais, ça dépasse tout. Et je dirais même, ces ténèbres, ces noirceurs, cette noirceur, c'est pas seulement le manque de lumière, mais c'est le manque de vie. Vous pouvez être dans le noir, mais être vivant. Quand j'étais au fond de la mine, j'étais dans le noir. J'étais vivant, je ressentais quelque chose. Mais là, non. Là, c'était la perdition de mon âme qui était en jeu, frères et sœurs, chers amis. La perdition de mon âme. Il ne s'agissait même plus de mon corps, de la perdition éternelle. Et oui, j'étais là dans cette chute de la mort éternelle. Et là, frères et sœurs, je peux vous affirmer et je peux vous confirmer que quand vous prononcez le nom tout-puissant de Jésus, il y a des choses qui se produisent. Peu importe de la situation dans laquelle vous vous trouvez, Dieu œuvre, Dieu agit, Dieu pourvoit. Et là, dans cette chute, moi ne connaissais pas Jésus, je ne savais pas à qui j'avais affaire. Je savais juste ce que j'avais entendu, un Seigneur, un Dieu, mais lequel? Et là, dans cette chute, dans cet effroi, dans cette peur, dans cette souffrance, dans cette douleur incommensurable, dans ces ténèbres sans vie, j'ai crié par 3 fois. Seigneur! 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 Aide-moi! Secours-moi! Et comme il est dit dans le psaume, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Alléluia! J'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, je peux le confirmer aujourd'hui. Si Dieu m'a demandé de donner mon témoignage, c'est parce qu'il y a une raison à cela. Aujourd'hui, j'affirme dans le nom tout-puissant de Jésus que Dieu est lumière et vie, qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. Quand Dieu se lève, les ténèbres se dissipent. Il n'y a plus de mort. La mort a été vaincue à la croix. Extraordinaire. Et pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur son Fils Jésus-Christ, en lui nous avons la révélation, en lui nous avons la connaissance. Et j'ai crié « Seigneur », pas un cri qui vient de l'estomac, pas un cri qui vient de la tête, pas un cri qui vient de la conscience, mais le cri de l'âme, de cette âme qui se perd dans cette angoisse et ténèbres éternelles. Le cri de l'âme. Et quand j'ai crié par trois fois, Dieu est intervenu. Dans ma chute, une lumière a commencé à m'envelopper, à m'envahir. Du bout des pieds, elle est rentrée en moi. Elle m'a relevé. Ma chute a été arrêtée. Et là, j'ai ressenti cette présence de Dieu extraordinaire. Quand l'apôtre Paul est tombé sur le chemin de Damas, il disait que la lumière, il parlait d'une lumière resplendissante, et c'était en plein midi que Saul de Tarse, est tombé sur le chemin de Damas. Et cette lumière était plus grande que celle du soleil en plein midi. Parce que là, on ne parle pas de la lumière physique du soleil. Et là, je peux également comprendre dans l'Apocalypse que nous n'avons pas besoin ni de la lune ni du soleil parce que Dieu est lumière et Jésus-Christ en est son flambeau. C'est parce que Dieu est lumière de vie. Le soleil peut s'effondrer, la lune peut partir, peut disparaître. Quand Dieu est là, il y a la vie. Quand Dieu est là, il y a la vie. Extraordinaire. Et là, j'ai commencé à être rempli de cette lumière resplendissante. J'étais couché, je disais, dans mon lit. Et là, je commençais à rentrer dans mes perceptions sensorielles. Je commençais à ressentir. J'avais les larmes qui commençaient à couler de mes yeux sur mes joues. Ces larmes qui m'ont donné de comprendre que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Je n'ai jamais pu l'exprimer auparavant, avant ma conversion, je ne savais pas. Quand on dit que Jésus est ressuscité, c'est vrai. Jésus est vivant. Gloire à Dieu. Et dans ses larmes, j'ai ressenti ma misère. Et j'ai ressenti mon péché, mes impuretés, ma souillure. Je ne savais pas ce que c'était la repentance. Et là, devant, dans cette lumière, dans cette plénitude, j'ai ressenti mon péché, ma souillure, ma saleté. Et il est dit dans Job, « Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit à la lumière l'ombre de la mort. » Quand la lumière arrive, quand la lumière de vie est là, tout est révélé. Ce qui est caché est révélé. Dieu révèle même ce qui est dans les ténèbres les plus profonds. Et Ésaïe 53, verset 5, il a été brisé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Là, j'ai compris, je commence à comprendre. Seigneur, tu es mort pour moi sur la croix. Là, je suis rentré dans une phase de repentance, mais ne sachant pas m'y prendre, ne connaissant pas, ne sachant pas prier. Je ne savais pas ce que c'était la prière. Je me suis levé de mon lit. Je me suis mis à genoux dans ma chambre à coucher. Et croyez-moi, frères et sœurs, chers amis, j'avais l'impression d'être la plus petite particule de poussière, la plus petite once de poussière qu'on peut voir, même pas au travers d'un microscope, là, à genoux, dans cette majesté divine. Je n'ai pas vu Dieu, je n'ai pas vu Jésus. Mais une chose, je peux vous dire, la lumière, je l'ai vue, et plus que vue, j'étais dedans, et plus que dedans, et j'étais environné de cette lumière de vie. Alléluia. Et j'étais là comme un grain de poussière à genoux, dans cette majesté, dans ma chambre à coucher. Et là, la seule chose que j'avais à dire, merci Seigneur, c'est tout. C'est tout. J'étais dans la repentance. Je savais que j'étais pécheur souillé, j'étais découvert, j'étais mis à nu. J'étais dans une telle splendeur que c'est plus qu'un scanner. Ça vous passe partout. Vous êtes dans la lumière. Extraordinaire. Tout est vu. Tout est vu. Vos pensées, vos rêves, vos paroles, tout est vu. Vous êtes nu devant Dieu, j'étais nu devant Dieu. Oh, quelle grâce quand on se repent. Quelle grâce quand on se repent. Quelle grâce quand on se dit, oui Seigneur, j'ai péché contre toi. Oui Seigneur, je sais que j'ai fait du mal. Quand il y a cette sincérité du cœur, c'est extraordinaire. Et à ce moment-là, j'ai certainement dû paraphraser, j'ai certainement dû m'exprimer dans la chambre à coucher, la clique. J'ai ma femme qui met la lumière, assise dans le lit, elle me voit à genoux. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, je crois qu'elle... Non, elle n'a même pas parlé. Je me suis levé, tout en étant plus qu'une atmosphère, dans cette situation, dans cette... La chambre est éclairée. Les meubles ne comptaient plus. J'étais dans la lumière qu'elle ne voyait pas. Et je lui ai dit, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Elle m'a regardé, les yeux écarquillés, en état de choc. Elle ne pouvait plus s'exprimer. Elle pensait, ça y est, il débloque. Et je me suis dit, en même temps, dans cette joie, dans cette exaltation, dans cette plénitude, je me suis dit, ne voyant qu'elle ne réagissait pas, ça va très vite, hein, ne voyant qu'elle ne réagissait pas, je me dis, Seigneur, elle va téléphoner un psychiatre, ils vont venir, ils vont me mettre dans une camisole, et puis ils vont m'emmener. Mais je me suis dit, peu importe, Seigneur, si toi, tu es avec moi, je peux être derrière les barreaux où je veux. Il n'y a plus rien qui compte. Seigneur, ta présence, c'est la vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus que la vie? Et voyant qu'elle ne réagissait pas, il fallait que je m'exprime. J'avais juste une chemise, un t-shirt et un slip, et je suis sorti dehors. C'est pour ça que je disais au début, je savais quand je suis allé me coucher, il était à peu près minuit, et je savais qu'il était 5 heures du matin. parce que j'étais dans la rue, pieds nus, avec du moins 5, dehors, avec une telle exaltation dans le cœur que j'ai couru vers la maison de mes parents. Et là, j'ai toqué à la porte. Et comme sa porte d'entrée était vitrée, ça ne venait pas assez vite. Mais oui, le temps qu'ils se réveillent, le temps qu'ils se lèvent, le temps qu'ils comprennent, le temps qu'ils entendent, ça n'allait pas assez vite. J'ai couru nouveau au portail, à la sonnette, j'ai sonné, j'ai toqué. Et à un moment donné, mon père, un petit peu encore dans son sommeil, ouvre la porte. Moi, je l'ai embrassé, je l'ai pris dans les bras, j'ai fait « Papa, j'ai trouvé Jésus, papa, Jésus est vivant, papa. » Et il me repousse, il me fait « Attends. » Parce qu'il pensait que j'étais ivre ou sous. Oui, rempli de la présence de Dieu. Mais il savait très bien que je ne bois pas, comme je disais avant. Je n'avais pas de problème de santé. J'étais un gars assez. Hein? Et j'ai ma petite sœur Stéphanie qui descend les escaliers aussi à moitié endormie parce que, justement, en entendant ce brouhaha, je l'ai prise, je l'ai serrée dans les bras. Elle qui venait se faire de baptiser la veille, l'après-midi. Et j'ai dit, oui, Jésus est vivant. J'ai ma mère plus tard qui est également descendue des escaliers. J'ai dû l'annoncer, j'ai dû l'exprimer. Si vous m'aviez donné un mégaphone, je crois que je serais allé sur toutes les toits des maisons et j'aurais hurlé dans toute ma cité. Que Jésus est vivant. Et je suis ressorti. Toujours encore pieds nus. Mon père, il dit, hey, tu veux pas t'habiller là? Je fais, non, j'ai 50 mètres, j'ai plus besoin de ça. J'ai plus senti le froid, plus rien. Je suis retourné chez moi, alors je ne sais pas si un voisin m'a vu. En tout cas, s'il m'a vu, il n'ose peut-être pas en parler. Parce que sinon, c'est lui l'illuminé. C'est lui qu'on va prendre peut-être pour un fou.
Oui, frères et sœurs. C'est la vie nouvelle qui a commencé en moi. Du jour au lendemain, j'étais un homme nouveau. Et comme disait Jessica, Dieu a brisé mon cœur de pierre. Alléluia. Il m'a donné un cœur de chair. Mes frères et sœurs, ce n'est pas un cauchemar. Ce n'est pas un rêve anodin. Ça fait 33 ans que ça dure. J'ai plus de temps dans la vie chrétienne que du temps de ma vie païenne, extraordinaire. Alléluia. Ça fait 33 ans que ça dure. Alléluia, gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, je chante devant les hommes et je dis, j'ai péché, j'ai violé la justice, je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière, à sa lumière. Voilà ce que Dieu fait deux fois, trois fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse, de la destruction, pour l'éclairer de sa lumière, de la lumière des vivants. Extraordinaire, je loue, j'adore mon Dieu, j'exalte mon Dieu. Je nomme le nom tout-puissant de Jésus sur ma personne. Alléluia. Sur ma famille, sur mes biens. Parce que le nom de Jésus est le nom tout-puissant. Le nom de Jésus, c'est celui qui peut te sauver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est le jour du salut. Ne sors pas de cette pièce, ne sors pas de cette église sans avoir dans ton cœur une petite réflexion. Seigneur, comme je l'ai fait en moi, si je devais choisir un Dieu. Ah, je ne comprends pas le prédicateur, je ne sais pas ce qu'il raconte. Est-ce vrai, est-ce pas vrai? Peu importe. Ce qui compte, c'est le nom de Jésus. Si tu sors avec le nom de Jésus dans ta tête, c'est le plus important. Jésus, je veux te trouver. Jésus, je ne te connais pas. Seigneur, je veux avoir cette révélation personnelle. Je veux avoir cette relation personnelle avec toi, pas au travers d'une relique, pas au travers d'une religion. Quand je témoigne aujourd'hui, j'ai témoigné l'autre jour à deux pharmaciens.
J'étais parti à la pharmacie à 18h, je suis rentré à 21h. J'ai même pas le temps de répondre à un SMS de ma femme puis demander ça y est, il faut que j'appelle l'ambulance. Non, 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 je ne veux pas. Voilà. Mes frères et sœurs, on est rentrés dans une discussion. Dans la pharmacie, j'ai commencé à voir les gens, le personnel qui commençait à partir. Et les deux responsables pharmaciens, on était là et on commençait à rentrer dans une discussion. Et je leur disais à un moment donné, ce qui compte, c'est d'avoir une relation avec Dieu. Être évangélique, ça ne veut rien dire. Être évangélique, c'est uniquement être identifié sur le plan des statuts civils. Mais le plus important, c'est d'avoir Jésus, la personne de Jésus, dans notre cœur. Et j'ai témoigné. Et puis, maintenant, je continue à prier pour eux, pour que les choses se fassent, parce que ce sont des personnes religieuses qui sont attachées justement à certaines reliques, à certains mysticismes. Ben voilà. Mais sans casser les choses, les amener justement à connaître vraiment la personne de Jésus. Alors, en conclusion, Dieu dit ce que je désire, c'est que le méchant ne meure pas, dit le Seigneur. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et moi je le crois, alléluia, tu seras sauvé. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et le psaume 71, verset 23, « En te célébrant, j'aurai de la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée, la joie dans mon âme que tu as délivrée. » Jessica nous disait, quand elle est fatiguée, ben, elle est ressourcée par la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est plus profonde que notre état de fatigue. Notre âme, Dieu la restaure. On peut être dans les difficultés, dans la souffrance, mais l'apôtre Paul nous dit, ben, restez dans cette joie. Mais Seigneur, comment pourrais-je être joyeux avec ces circonstances dans lesquelles je me trouve, dans cette détresse? Mais parce que la joie est beaucoup plus profonde que soi. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est une joie constante. Elle est immuable, comme la présence de Dieu. Quand nous l'avons en nous, on peut y puiser. Elle est toujours là, cette joie. Elle est toujours là, cette paix. Elle est toujours là, cette restauration. Elle est toujours là, cette vigueur spirituelle, cette énergie spirituelle. Elle est là, parce que Dieu est immuable. Alors, je ne sais pas si quelqu'un ici n'a pas entrepris cette démarche d'avoir Jésus-Christ comme sauveur. N'attendez pas de mourir pour ouvrir les yeux sur l'éternité, mais que ce matin, vous puissiez faire cet acte de foi avec sincérité de cœur. Oh, soyez sincères. Oh, ne dites pas, j'aimerais bien essayer, comme essayer tant d'autres choses. Non. Avoir cette sincérité de cœur en disant, Seigneur, si tu es Dieu, et si tu existes, et cette sincérité de cœur m'a même à dire, Seigneur, je ne te connais pas, je ne te connais pas. Et on peut même venir tous les dimanches dans un culte évangélique. Ce n'est pas ça qui va vous sauver. Vous pouvez accompagner votre épouse, vous pouvez accompagner votre mari, vous pouvez accompagner vos enfants, vos enfants peuvent vous accompagner, vous n'êtes pas sauvés pour autant. C'est individuel. C'est personnel. Vous êtes venu seul au monde. Vous repartirez seul. Vous êtes arrivé nu, sans rien apporter. Vous repartirez nu, sans rien reprendre. Aujourd'hui est jour de salut. Pour ceux qui ont le salut,
C'est une joie. Oh Seigneur, oui, merci de ce que tu m'as sauvé. Je te loue, je bénis. Seigneur, que tu sauves encore beaucoup d'autres. Merci Seigneur de ce que tu uses de patience. Merci Seigneur de tout ce que tu touches les enfants. Merci Seigneur de ce que tu touches les époux, les épouses non converties. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Je vous inviterai à vous lever, si vous voulez bien. Et je voudrais faire un appel pour une personne, ou plusieurs, je ne sais, qui n'ont pas encore fait cet acte de foi, et pour les autres qui ont le salut, qui puissent prier en leur cœur. Alléluia, c'est ce que vous faites déjà. Merci. Si aujourd'hui, ce matin, il y a une personne qui ne connaît pas Jésus comme sauveur, qu'elle puisse prendre cette décision. Ah, prendre la décision ce matin, ça ne veut pas dire que tout va changer de but en blanc. Parce que pour moi, c'est arrivé en une nuit. Pour d'autres, ça mettra plus de temps. Et quel plaisir que j'ai à entendre quand j'entends des enfants, et souvent de familles chrétiennes, qui ont entendu l'Évangile durant des années, au travers de leurs parents, au travers de l'école du dimanche, qui ont entendu et entendu, et un jour, en toute simplicité, sans quelque chose d'extraordinaire, sans quelque chose de fulgurant, une simplicité de cœur. Et en toute simplicité, j'ai déjà entendu des témoignages, mais extraordinaires. Oh, ça y est, il y a juste une petite phrase qui est sortie d'un cœur, tout simple. « Seigneur, je t'accepte. Voilà, je suis pécheur, pécheresse. » Quand ça sort, c'est extraordinaire. Il ne s'agit pas d'avoir des choses exceptionnelles. Aucun témoignage n'est exceptionnel, frères et sœurs. Aucun témoignage n'est exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, c'est quand Dieu touche le cœur. Peu importe par quelle manière et de quelle manière. Ce qui est exceptionnel, c'est quand Dieu touche le cœur. Et Dieu connaît le caractère, les sentiments de chacun. Alléluia. Si quelqu'un ne connaît pas Dieu aujourd'hui, qu'il puisse lever sa main. Et je prierai pour lui ou pour elle. Alléluia. Ne te sens pas gêné, car moi-même, j'ai assisté avant ma conversion à une soirée d'évangélisation. Et croyez-moi, à un moment donné, quand le pasteur il a fait l'appel, j'avais ma main droite qui s'est levée toute seule, elle s'est levée parce que la personne disait « Oui, pour ceux qui veulent accepter Jésus-Christ, qui lèvent leurs mains. » J'étais assis sur ma chaise, ma main droite s'est levée. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris ma main gauche et j'ai rabattu ma main droite. Pourquoi? Je ne sais pas encore aujourd'hui, mais je peux supposer certaines choses, hypothèses. C'est peut-être parce que j'avais honte, ou peut-être parce qu'il fallait que je laisse tomber certaines choses, ou peut-être parce que vont dire mes copains, que vont dire mes copines? Alors aujourd'hui, je voudrais encore vous donner du temps pour que vous puissiez donner votre cœur au Seigneur ce matin. Moi, c'est arrivé le 4 décembre 1999, entre minuit et 5 heures du matin, j'ai donné mon cœur à Dieu. Alléluia. Alors qu'aujourd'hui, ça puisse être également votre jour. Alléluia. Alléluia. Alléluia.